Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour leur série numéro 3. Aujourd'hui, je suis avec Sarah. Salut Sarah.
Hello.
Elle est stressée.
Non, trop pas en plus. Oh, c'est cool.
Donc, je suis chez toi, Sarah, c'est trop cool. Ça m'arrive très peu d'être avec l'invité directement, sauf en studio, mais là, tu m'as accueilli chez toi et il fait juste 37 dehors.
Hyper
si,
chaud.
Ça va,
super,
ouais.
Trop bien.
Sarah, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, bien sûr. Donc, je suis Sarah, j'ai 25 ans et en fait, je ne suis pas française, je suis belge, ce qui est trop bien. Non, en fait, je dis que je suis belge, mais j'ai jamais vécu en Belgique. J'ai un peu un parcours assez international, on va dire. Depuis que je suis petite, en fait, mon papa, il travaillait pour une société qui, on devait déménager beaucoup. Donc, tous les 4 ans, on se retrouvait à « pack your bags and go ». Donc j'ai fait par exemple l'Arabie Saoudite, j'ai été à Londres, j'ai été aux Pays-Bas, donc en fait ça veut dire aussi que je parle beaucoup de langues, et
ouais.
Tu vas probablement l'entendre dans l'interview aussi, mes langues en fait c'est l'anglais, le français et le néerlandais, et j'ai dit que je parle couramment, mais je parle aussi très mal, enfin les deux également, parce qu'en fait quand t'apprends 3 langues, souvent tu l'apprends pas tout à fait en entier, et du coup tu manques un peu des mots par ici et par là. Mais ça va bien se passer.
T'as quel âge ?
J'ai 25 ans.
Ok.
Oh, ouais.
Wow.
C'est hyper jeune. Et c'est un peu un problème aussi l'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est que les gens en fait, souvent ils me regardent, ils me font « Non, tu t'es pas chef d'entreprise, ça
ouais,
c'est pas possible. »
Un bébé.
Je suis un bébé. Donc, et en plus, en termes d'être femme aussi, souvent tu travailles avec des hommes et enfin ils te regardent et ils font « Non, mais t'es sérieuse ?» Et t'es là, bah oui, je suis sérieuse. Et j'ai un business plan, tu veux le voir ? Et en fait, non, mais donc.
Je le sors là.
Tu veux que je le sorte ? Je l'ai dans mon iPhone, c'est à tout temps. Donc voilà ce qui je suis un petit peu. Donc je suis dirigeante d'entreprise. Mon entreprise, elle s'appelle le Club de Sport Mon Cul. Ce n'est pas une blague. On va en parler probablement un peu plus tard dans.
Ok. Dans... Yes, c'est pour ça aussi qu'on se voit aujourd'hui, hein, c'est pour que tu nous parles de ton entreprise. Est-ce qu'on peut remonter du coup à la période lycée ? Mais je ne sais pas, où est-ce que tu étais à la période lycée ?
Bonne question. Donc,
je ne sais pas.
Je réfléchis. Non, donc lycée, j'ai fait en fait, ça s'appelle un International Baccalauréat, donc le bac international. Et donc je l'ai fait aux Pays-Bas, et en fait ce qui est super cool les International Baccalauréat, c'est que d'un très jeune âge tu peux déjà choisir un peu là où tu veux être, donc la thème en fait, ou tes cours où tu veux te spécialiser, et les cours où tu veux moins te spécialiser ou même arrêter le cours tout à fait. Donc par exemple, donc le parcours scolaire que j'ai fait, j'ai beaucoup focalisé sur tout ce qui était art, parce que je suis hyper créatif. Et non seulement ça, mais aussi j'adore les maths et la physique, donc j'ai pris beaucoup de sciences. Donc mon parcours est un peu plus dans l'art qui mixe avec la science.
Okay.
Donc c'est ça que j'ai fait au lycée, et je me suis moins focalisée sur les langues. Donc voilà. Et je me suis aussi moins focalisée sur tout ce qui était l'histoire. Donc moi, c'était vraiment plus science et art qui était mon gros numéro 1.
Et j'ai... Ouais. Pardon.
Non.
Alors, c'est la première fois. Alors, je compte le nombre de fois où je la coupe. Vraiment, hein, je mets des petits bâtons. Est-ce que tu avais une idée de ce que tu avais envie de faire plus tard ?
C'est une très bonne question. En fait, j'ai été hyper chanceuse d'avoir des parents qui, depuis un très jeune âge, ils me faisaient faire plein de trucs manuels. Donc, la créativité était hyper développée d'un très jeune âge. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'était un peu, on dit innate, c'était un peu vraiment comment je le sentais, je faisais. Et donc, par exemple, l'art, et ma grand-mère a été fashion designer, mon oncle était, il était architecte d'intérieur, et ma mère aussi. Donc, en fait, j'ai toujours été dans ce milieu-là. Donc, je savais que je voulais faire quelque chose de créatif, mais j'étais aussi hyper forte en maths et en physique. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux vraiment mélanger ces deux-là ? Et d'un très jeune âge, en fait, je m'étais dit, j'adore les gadgets et tout ce qui est vraiment tactile, physique. Et donc, je me suis dit, je vais devenir product designer, donc designer de produits.
Ok.
Et donc, c'est ce qu'en fait, j'ai fait. Donc, depuis le lycée, je me suis mis art et sciences sur mon plateau parce que du coup, ça me permettait pour l'université, pouvoir choisir des universités hyper bonnes là-dedans. Je suis passée du coup, ça s'appelle TU Delft, donc Technical University of Delft. Donc, c'est une école aux Pays-Bas qui est hyper reconnue pour le design industriel.
Ok.
Donc, c'est aussi ce que j'ai fait. Pendant 3 ans, donc mon bachelor j'ai fait là-bas, et après en fait je me suis un peu posé la question vraiment est-ce que ça me passionnait, est-ce que c'était vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer à faire, parce qu'en fait ce qui soit dans l'industrie tu fais de l'argent quand tu peux vraiment faire beaucoup, beaucoup de produits. Donc, ça s'appelle mass production.
Okay.
Et quand moi, je voyais la vie, c'était qu'en fait, il ne fallait pas créer plus de produits, il fallait créer des produits plus efficacement et des produits plus smart. Donc, ça ne sert à rien d'avoir un corps 100 000 chaises, par exemple, mais ça sert à quelque chose, par exemple, de pouvoir recycler le plastique. Donc, moi, j'étais beaucoup plus intéressée en tout ce qui était technique et tout ce qui était possible.
Ouais, ouais, durable et tout.
Exactement.
Okay.
Et donc, en fait, pour dire et répondre à ta question, oui, je savais très bien ce que je voulais, mais en fait, ça a changé une fois que je l'ai fait.
Ouais.
Donc, après le lycée et pendant l'université, j'ai fait un break entre mon bachelor et mon master pour un peu réfléchir et repenser à ce que je voulais faire. Et après, j'ai été à Paris, donc c'est la première fois que j'étais en France, et j'ai fait en master, ça s'appelle Design for Social Impact, donc le design pour l'impact social, parce que je me suis dit, en fait, avec tous mes skills, j'ai envie de vraiment me focaliser sur le bien-être des gens, et donc voir un peu ce que ça veut dire, voir qui moi je peux être en termes de designer, en termes de quelqu'un qui est créatif. Et donc, j'ai fait ce master-là à Paris pendant un an.
Ok. Il y a des stages ?
Alors, il y a des stages. Et en fait, mon parcours est hyper particulier. Je n'ai pas fait des stages comme les personnes un peu qui vont dans les corporates. Moi, j'ai fait des stages au Vietnam et en Roumanie. Et en fait, j'ai fait plutôt des stages qui étaient très manuels. Donc, en Vietnam, par exemple, j'ai travaillé avec un artiste de céramique.
Ok.
Et en Roumanie, Ouais.
C'est trop stylé.
C'était trop cool. C'était ouf l'expérience. Et en Roumanie, en fait, j'ai travaillé avec un architecte qui retapait des monuments historiques de bois en Roumanie. Donc là, j'ai vraiment appris comment travailler le bois et comment restructurer des monuments en Roumanie. Et pourquoi j'ai fait ça et j'ai pas été dans des corporates comme la plupart de mes collègues ou étudiants at the time, c'est parce qu'en fait je me suis dit si je suis une designer, donc si moi je vais faire des produits, je vais les dessiner, il faut que je sache comment les matériaux y réagissent. Donc je suis pas seulement techniquement fiable, mais c'est vraiment je connais la matière et je l'ai déjà pratiquée. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi pour vraiment opter à, en fait mon goal c'est de faire la céramique, le bois, le métal, et le verre. J'ai pas fait les deux derniers parce que j'ai pas eu le temps et j'ai pas trouvé non plus d'emplacement où tu peux faire ça comme sage. Donc c'est un peu mon idée, c'est si tu veux faire quelque chose, il faut bien le faire et il faut vraiment connaître toutes les facettes et pas seulement être derrière un ordinateur et de créer un truc 3D sur un programme, mais de vraiment savoir ce que ça veut dire en fait et quel bois tu peux utiliser pour faire quel produit, etc. Donc,
ce master, tu l'as fait où ?
Ce master, je l'ai fait à Paris, mais en fait, le master, ça n'a rien à voir avec mes stages, c'était vraiment un master.
Tu te souviens de l'école ?
Ouais, ça s'appelle Paris College of Art. Donc PCA, c'est dans le 10e à Paris.
Ok.
Et c'est une école, donc j'étais le deuxième à faire le programme Design for Social Impact. Maintenant, il y a 3 ans déjà.
Ok.
Voilà.
Et à la suite de ce master, tu fais quoi ?
Voilà, à la suite de ce master, très bonne question. De nouveau, c'était un peu, pour moi, c'était un peu le « oh oh, what now ?» J'avais aucune idée de ce que je voulais vraiment faire. Enfin, je savais que je voulais devenir product designer. Mais en fait, j'étais un peu arrivée dans un moment où le monde, il changeait. Donc, il y avait de moins en moins de produits, il y avait de moins en moins de trucs physiques vraiment créés. Ça coûtait de plus en plus cher aussi. Et il y avait moins de demandes pour ces skills. Donc, je me suis beaucoup posé de questions. Et en fait, j'ai commencé à bosser pour une boîte de cosmétiques. Le nom de ce que je faisais, c'était coordinateur d'innovation. Et donc, mon rôle là-bas, en fait, c'était de venir avec des nouvelles idées et de créer, en fait, des packaging pour les produits qu'ils vendaient. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance pour bosser là-bas parce qu'ils étaient hyper focalisés sur tout ce qui était consommateur, donc l'expérience consommateur. Mais non seulement physique, des produits physiques, mais aussi, en fait, quand tu rentres dans leur magasin, qu'est-ce qui se passe ? Donc, du moment 1 où la personne rentre, au moment où tu achètes ton produit, ils ont des sections hyper spécifiques qu'il faut suivre pour, en fait, que ton consommateur vraiment rentre dans l'expérience et puisse profiter un maximum, en fait, de tes produits. Et donc, c'est ça qui m'a, en fait, enclenché en mode, c'est fou qu'il y a le produit qui est vraiment, en fait, juste une partie de toute l'expérience consommatrice. Et j'ai beaucoup appris là, que j'ai repris dans mon entreprise maintenant. Et donc ça, c'était aux Pays-Bas. Et après un an et demi, en fait, j'ai adoré, mais j'étais prête pour la prochaine étape. Parce que ce que je voyais, c'est qu'en fait, mon envie de créer et mon envie de devenir entrepreneuse, c'était en fait parce que j'avais beaucoup d'idées, que j'avais envie d'aider de plus en plus de personnes. Et je m'étais dit, pourquoi pas devenir consultante? Ça veut dire que je bosse sur des projets différents et je peux du coup vraiment passer de créer des produits, etc., à vraiment repenser la structure, par exemple, stratégique, la structure créative des produits pour des entreprises qui ont de l'argent pour le faire aussi. Donc, c'est vraiment de voir en fait ta créativité aller de presque rien au produit final. Donc, j'ai été prise ici à Paris. Donc, c'est pour ça que j'ai déménagé.
Donc, tu es revenue à Paris.
Voilà, je suis revenue à Paris et j'étais hyper contente parce que j'adorais la ville. Enfin, je suis un peu tombée amoureuse de Paris. Mais ça n'a pas duré très longtemps. je suis restée là-bas pendant 4 mois, donc dans l'entreprise. Et la seule raison, c'est parce qu'en fait, vraiment, ce itch entrepreneurial, genre, il était plus grand que ce que je faisais là-bas, en fait. J'avais tellement envie depuis longtemps de faire de créer ma propre entreprise.
Ouais, que toi,
ouais, et que ça, vraiment, j'ai fait. En fait, je bosse beaucoup. Je pourrais mettre le même nombre d'heures dans quelque chose qui me passionne encore plus et réaliser vraiment un rêve que j'ai eu de mon enfance, être entrepreneuse en fait. Donc, voilà.
Mais ça se passait, enfin, quand tu étais en entreprise et tout, ça se passait bien. Enfin, c'est pas le monde de l'entreprise qui t'a déplu, c'est plus vraiment d'avoir ton truc à toi.
Ouais, je pense exactement ça, la question. C'est pas l'entreprise en soi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont excellentes. T'apprends énormément. Comme beaucoup de gens disent, tu vas là-bas pour apprendre et pour grandir. J'ai 25 ans. J'ai commencé à bosser à l'âge de 22. Donc, j'avais pas d'expérience. Genre, mes stages, c'était pas en entreprise non plus. Donc, il fallait quelque part que j'apprenne à devenir plus mature quand même, à comprendre aussi comment une entreprise marche, à comprendre comment les clients ils marchent, à comprendre, à grandir vraiment dans on va dire, le truc professionnel.
Ouais.
Mais c'était plus qu'en fait, à l'âge de 14 ans, j'avais déjà un peu commencé avec mes propres trucs sur le côté, mes propres entreprises, on va dire, mais je peux pas nommer ça comme ça, mais mes propres projets.
Tu faisais ton business,
faisais des choses, je sais pas. Et en fait, pendant toutes ces années, j'ai essayé de diminuer mon. Ouais, c'est vraiment ce itch entrepreneurial parce qu'en fait, je m'étais dit, je suis trop jeune, genre, j'avais peur, j'ai pas l'argent pour le faire, etc. Donc, en fait, j'ai essayé de le mettre de côté. Et à l'âge de 25 ans, je me suis dit, non, mais j'ai bossé pour 2 sociétés maintenant et ça marche hyper bien. En fait, j'ai pris un peu plus de confiance en moi. J'ai aussi pu mettre de l'argent de côté. Donc, c'est ça un peu aussi qui m'a dit, OK, j'ai assez d'argent pour 6 mois. Donc, let's go, quoi. Et en fait, je suis aussi un peu de nature impulsive. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, si je vais le faire, il faut que je le fasse 100%, parce que j'ai vu plein de gens essayer de le faire à côté du taf, et surtout pas en consulting, j'avais genre 2 heures de ma journée où je pouvais manger et aller dormir. Ouais. Donc, j'avais pas le temps de le faire sur le côté. Donc, je me suis dit, si je veux le faire, je dois arrêter le consulting et je dois juste y aller 100%. Et donc, c'est ce que j'ai fait.
Ok. Voilà. Donc, tu commences par quoi? Donc on est bien d'accord, tu étais revenue sur Paris, ça a duré 4 mois.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as fait après?
Qu'est-ce que j'ai fait? C'est une très bonne question. Donc pendant ces 4 mois, bien sûr, j'ai déjà commencé à réfléchir sur ce que je voulais faire. Donc comme j'ai dit, depuis 14 ans, je suis hyper créative et j'avais plein d'idées d'entreprises. Mais bon, ça allait d'entreprise de lingerie à une entreprise de photos. Enfin, il y avait plein de choses différentes. Il y a aussi eu pas mal de bad ideas. Donc vraiment, pendant ces 4 mois, je me suis en fait remis en question et j'ai commencé à penser à un plan business. Donc ça, j'avais un peu dans ma tête pour voir si c'était en fait possible de pouvoir survivre à Paris sur ce que j'avais mis de côté.
Ouais.
Et si les idées que j'avais étaient values. Voilà, exact.
Ouais, quand je dis bonne, enfin en anglais, il y a un terme.
Valuable.
Ouais, voilà, ça prend en compte beaucoup plus de paramètres.
Ouais.
Est-ce que tu t'entoures de personnes déjà pour t'aider ou tu fais ça solo?
Donc ça, c'est un peu un de mes défauts. J'arrive pas à demander de l'aide. Ouais. Elle revise sur le.
Ouais, mais tu fais ça seule.
En fait, donc j'ai mon copain qui a aussi commencé son propre business il y a 3 ans.
Ok.
Donc ça a été un énorme aide et voilà, hein, je te le dis.
Bah,
tu vas écouter ce podcast. non, mais donc vraiment, j'ai eu de la chance. Enfin, Je dis beaucoup de la chance sur ce podcast, je pense, mais en fait, c'est parce que je m'entoure et j'ai...
Non, je trouve que c'est pas de la chance, en fait. C'est... Bah non, vas-y. C'est juste qu'il est là, il est là, et lui, il a créé. Donc, bah, en plus, c'est, quand t'es en couple, c'est quelqu'un qui t'épaule normalement, ou sur qui tu peux compter, et sur qui... Fin... Donc, du coup, j'imagine que les questions, tu les as posées à lui.
En fait. Aussi, ouais. Et bon, on n'était pas d'accord sur tous les points, bien sûr. Parce que j'ai mes propres idées. Non, mais ce que je veux dire que chance, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est aussi, en fait, c'est de s'ouvrir. Et quand tu t'ouvres, il y a beaucoup d'opportunités qui viennent. C'est un peu comme la happiness therapy. C'est hyper cool. Et si vous ne connaissez pas les gens qui écoutent, il faut vraiment aller voir ça. Parce qu'en fait, ça, c'est un des débloqueurs de vraiment te lancer dans ton truc. Parce que souvent, t'as peur, souvent, t'as pas les sous, souvent, tu sais pas comment faire.
Tu fais des blocages directs.
Exact. Et en fait, donc, quand tu réfléchis à tout ce que tu peux faire, tous les trucs positifs, en fait, qui arrivent dans ta vie, quand tu prends les choses qui te viennent comme opportunité et pas comme « Ah !» En fait, tu vas voir que ça fait pas peur, en fait. Il faut juste le faire et tu réalises que tout se passe bien. Et tu vas faire un step, tu vas faire un autre step. Et tu continues, en fait, ça devient de plus en plus grand. Et tu regardes en arrière et tu fais « Oh, mais j'avais peur pour ce petit truc-là. » Non, come on. Et en fait, c'est « The happiness therapy », c'est vraiment te mettre dans le mindset de « Ok, genre, oui, je peux le faire. Why not ? Enfin, let's go. » Et de vraiment réfléchir et de prendre tout comme une opportunité et non comme des freins. Et ça, c'était hyper important. Donc, je veux dire, donc, ça, j'ai eu mon copain, j'ai eu mes parents quand j'étais jeune qui m'ont mis là-dedans. Enfin, j'ai vraiment eu ce parcours un peu... pas abnormal, mais qui ont fait qu'en fait, ça m'a formée à être quelqu'un d'hyper créative et quelqu'un qui adore. En fait, tous les problèmes, je les prends comme challenge et j'adore ça.
Ouais.
Et c'est un peu ça la chance que j'ai. Mais donc, tu m'as posé la question, est-ce que j'ai parlé des gens ? Donc, non, je parle vraiment pas à beaucoup de personnes. Aussi parce qu'en fait, j'ai l'habitude aussi de trop partager et ça m'a déjà aussi freinée dans mes autres entreprises où des gens prenaient les idées et les faisaient eux-mêmes plus vite.
Complètement, ouais.
Donc, j'ai aussi eu beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont dit « Sarah, genre, il faut vraiment que tu arrêtes de dire tous tes plans à tout le monde. » Genre.
Ouais.
Donc, j'essaye de ne pas faire ça, mais aussi, en fait, je n'ose pas demander de l'aide. Je me dis « Mais je sais le faire moi-même. » Enfin, j'ai envie de le faire moi-même.
Et d'apprendre aussi.
Exact. Ouais. Et en fait, c'est hyper compliqué de dire « Ok, comment est-ce que toi, tu vois les choses ?» Parce qu'ils n'ont pas été là depuis le début. Donc, j'ai une vision hyper carrée de ce que je veux faire. Et quand quelqu'un me bouscule, en fait, ça me prend une ou deux semaines pour me remettre sur le track, tu vois. Donc, j'ai du mal à faire ça. Et c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre. Je suis aussi encore assez jeune. Donc, je pense que c'est de la maturité aussi. C'est de dire « Ok, tu sais, de lâcher prise. Stopper d'être perfectionniste, vraiment. » Enfin, voilà.
Donc, c'est dur. Hein.
Être plus ouverte.
Ah, c'est dur. Quand t'es perfectionniste, wow,
ouais.
C'est...
Ouais, mais donc, okay. Business plan.
Ouais, pas du tout. En fait, je voulais couper, mais parce qu'en fait, on fait ça vraiment avec le micro, l'ordinateur, et c'est à la cassa.
Très bien.
Tu peux continuer. Alors, ton business plan, comment t'as fait ?
Donc, peut-être que je introduis d'abord l'idée, parce que ça fait make more sense.
Bien sûr.
Donc, l'idée que j'ai eue, c'est vraiment venue à Paris. Donc, quand je faisais du consulting, la seule manière pour moi d'un peu pouvoir sortir de ma tête, c'est de faire du sport. Et c'est quelque chose que j'ai fait depuis très jeune aussi. J'ai pratiqué un nombre énorme de sports. J'ai fait du hockey sur gazon, je fais du surf, je fais du volleyball.
Du hockey sur gazon.
Ouais, c'est hyper normal aux Pays-Bas.
What the fuck.
C'est hyper normal aux Pays-Bas.
Ok, sur gazon.
Ouais, en plus, c'est un sport qui est super, j'adore ce sport.
Ah non, pas du tout. Hein,
mais j'ai fait tout, du volleyball, handball, enfin tout. J'ai vraiment pratiqué tout. Et c'est un truc que j'adore et qui a été constant dans ma vie. Donc, quand je suis arrivée à Paris, j'ai recherché ça pour un peu de pouvoir sortir ma tête, un peu me défouler après avoir fait 12 heures de taf. Voilà.
Ouais.
Et
alors juste je te coupe, mais attends, ça c'était quand ? Parce que du coup, ce moment-là, là, parce qu'il y a eu le Covid.
Moi, je suis venue juste après le Covid.
T'es venue après le Covid. Ouais. Donc là, il y a 2 ans.
Il y a un an. Moi, je suis venue pas il y a un an. Ouais.
Ok, ça marche. Ouais. Ok, vraiment, c'est juste pour resituer parce
que. Bien sûr.
Parce que
bien
du coup, tout était fermé pendant le Covid. C'est
non,
ça.
Exact. Donc moi, je suis venue vraiment.
En 2021.
Ouais, et en juin. Si je ne me trompe pas.
Ça marche.
Donc, pratiquement un an.
Bah, ouais, donc là, tout avait repris, là, clairement.
Tout avait repris, exactement. Et donc, Donc, je recherchais un peu mes habitudes sportives. Bon, à Paris, le hockey sur gazon. je vais te montrer des vidéos après. Non, mais donc à Paris, il y a ça, mais c'est pas dans le centre, donc j'ai pas le temps d'aller le faire après le taf.
Ouais.
Et donc, je cherchais plutôt des clubs de sport et ce que je faisais aux Pays-Bas aussi. Et en fait, comme je suis pas parisienne et enfin, je me sens un peu, j'ai pas encore d'amis, enfin, quand je suis arrivée et tout,
ouais.
Je me sentais un peu mis à l'écart. Et dans les clubs de sport, j'ai pas vraiment ressenti cet esprit de communauté. Donc, quand j'arrivais, c'était un peu en mode, quel habit tu portes? Moi, c'est Gymshark, non? t'as quelle coupe de cheveux? Est-ce que t'as déjà fait du sport avant? Et j'avais pas fait du sport depuis 4 mois parce que, j'ai eu, le déménagement et tout.
Ouais.
Et pendant la séance de sport, limite, genre, je me faisais engueuler parce que j'arrivais pas à avoir ce niveau que tous les autres avaient dans la classe, apparemment. Et en fait, je me sentais pas bien. Or, le sport, tu le fais pour te sentir bien. Et donc, j'ai testé comme ça plusieurs clubs de sport à Paris. Et donc, j'ai pas trouvé mon mix de choses que j'aimais. Et je me suis dit, je suis pas la seule quand même. Enfin, c'est bizarre. Mmh. Donc, j'ai un peu regardé les statistiques de sport en France et à Paris. Et ce qui se trouve qu'il n'y a pas beaucoup, en fait, au final, de gens qui font du sport. Et je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais un peu pourquoi. Mais c'est personnel. Et en fait, je me suis dit, OK, moi, je pense que j'ai un concept qui pourrait marcher à Paris pour des gens comme moi. Et en fait, vraiment, le seul truc, c'est de pouvoir accepter tout le monde qui vient, de pouvoir se sentir bien après, de pouvoir t'avoir défoulé, de pouvoir avoir parlé à des filles ou à des hommes qui sont comme toi et qui n'aient pas de préjugés. Et en fait, il y a beaucoup de sports, de salles de sport qui essayent de faire ça, mais enfin, ils n'arrivent pas encore. Et donc, moi, en fait, c'était ça un peu mon idée globale. Et donc, le business plan, je me suis focalisée là-dessus, c'est « Ok, combien d'argent je peux investir ?» donc ça aussi ça déhance, ça il y a plein de choses qui vont avec ça, mais donc combien de coach est-ce que j'ai besoin, combien de séances est-ce que je peux faire, à combien je dois vendre ma séance pour que je fasse un peu de profit, quelle est la croissance que je peux prédire. Et donc tout ça, en fait, tu fais plein de recherches, tu vas online, tu regardes les chiffres, tu regardes combien de ton target audience, donc ton audience cible, elle est grande comment, de ça, en fait, essaye de vraiment avoir la partie la plus petite pour te dire vraiment ça, c'est réalistique. Et de ça, tu prends un pourcentage de dire, OK, 5%, 10%, je vais pouvoir ramener chez moi. Même pas.
Okay.
Genre, moi, je pense que j'ai mis 2%. Et après, tu avec ton business plan, en fait, tu regardes vraiment les coûts. Donc, les coûts que tu as tout le temps en salle de sport, donc la coach, l'emplacement. Tu as les coûts après qui ne sont pas fixes. Donc, tu as le marketing. Par exemple, tu as Instagram. T'as ton site internet, t'as les emails que t'as envie d'envoyer. Donc, il y a plein de coûts, en fait, que t'essaies d'additionner et tu vois si ton idée, à la fin, est rentable. Et pas rentable en un mois, c'est impossible. C'est rentable au long terme. Donc, moi, je me suis mis un goal de 6 mois, par exemple, parce que ça, j'avais pas plus que 6 mois pour vivre avec l'argent que j'ai mis de côté. Et je me suis dit, après 6 mois, je vais pouvoir commencer à me payer. Donc, c'est rentable.
OK.
Voilà. J'ai pas montré mon business plan à quelqu'un. Enfin, j'ai montré à mes parents et à mon copain, du coup.
Ouais.
Mon copain m'a dit, ça a l'air bien. Et mes parents m'ont dit, oh là là, t'es sûre? Je pense pas. Et je me suis dit, tu sais quoi? Gigo.
Ouais.
Enfin, je vais le faire. Et j'ai arrêté à l'entreprise. Et en un mois, je me suis posé l'objectif de trouver la salle de sport, de trouver mes coachs et de commencer parce que c'était presque janvier. Et c'est ce que j'ai fait et j'y suis arrivée. Donc c'était assez incroyable. Bien sûr.
Pour trouver l'endroit, parce que ce qu'il faut dire, c'est que là où les cours se déroulent, c'est pas commun.
Non,
est-ce que tu peux nous dire comment t'en es arrivée à cet endroit-là?
Ouais, bien sûr. Donc le budget que j'avais pour commencer toute cette tout ce parcours, tout ce projet, c'était très très bas. Ce qui faisait que à Paris, impossible de louer un emplacement, c'est impossible, c'est trop cher. Et aussi, en fait, j'étais pas sûre que j'allais pouvoir le rentabiliser dans les 6 mois. Donc j'ai un peu regardé donc l'identité que j'avais, donc ce qui était, il faut que ça soit décalé, il faut que les gens ils puissent se défouler, il faut que ce soit quelque part où justement c'est pas non plus hyper classe, parce que de nouveau là t'es dans un truc assez niche où les gens tu te regardes, tu te dis est-ce que je peux aller en salle de sport avec ma tenue que j'ai, enfin tu vois, l'emplacement il fait beaucoup à la personne. C'est le premier endroit que tu franchis la porte d'un emplacement et c'est là que tu as la première expérience. Donc ça, j'ai fait la petite anecdote, ça revient de ma première expérience pour l'entreprise dont j'ai travaillé, qui était hyper fort en expérience consommateur. Donc là, j'ai tout de suite compris que là où j'allais donner les cours, c'était, il fallait que ça représente genre l'idée ou le sentiment que j'allais redonner à mes clients. Donc un peu en réfléchissant, je me suis dit, en fait, il y a plein d'endroits, il y a plein de boîtes de nuit à Paris qui ne sont pas utilisées en journée. Donc en fait, ils sont laissés vides. Et en fait, c'est un peu des endroits qui sont seulement fun le soir. Et je me suis dit, en fait, il y a des lumières qui sont trop bien. Il y a de la musique qui est ouf parce que c'est eux qui ont les meilleures enceintes à Paris, tu vois. Je me suis dit, attends, eux, ils font pas d'argent parce que, pendant les heures, en journée. Donc moi, je peux leur dire, je vous occupe vos locaux, je vous paye. Et normalement, tu aurais perçu ça ce mois-ci. Donc, en fait, c'est un peu un win-win, tu vois. Et donc, j'ai contacté dans les 25 clubs, boîtes de nuit à Paris, dont une m'a répondu oui. Et je ne suis plus là-bas. Mais c'était vraiment l'emplacement qui a tout déclenché. C'était top. Et en fait, donc voilà, on donne nos cours de sport en boîte de nuit qui fait que, tu viens, c'est une boîte, on n'a pas refait le setting, c'est vraiment ce que t'as, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu as. Et en fait, ça fit hyper bien avec le concept parce que quand tu viens là, tu t'es déjà en mode let's go party, en fait. Donc, avec les coachs hyper motivantes et bienveillantes, on a pu vraiment raffiner le concept et les gens qui viennent, c'est pour s'amuser, c'est pour suer. Ouais. Donc, en fait, t'as pas peur de sortir de là et dégoulinante et de se sentir bien, en fait. Une particularité, on s'appelle le club soir mon cul, je reviens du coup maintenant à ce que ça veut dire.
Oui, on veut bien que tu nous expliques le concept.
Exact. Donc, en fait, c'est le club soir mon cul et on vient pour bosser les fessiers. Donc, on a le premier club de Paris vraiment à se focaliser sur notre petit derrière. Et
sur j'espère. Le boule.
Voilà, exact. et pourquoi ça, en fait, c'est aussi quelque chose qu'on n'ose pas travailler dans les gyms. T'as plein d'hommes qui te regardent, les gens ils savent pas trop quoi faire.
C'est clair qu'une meuf qui travaille son cul, clairement, tu te tapes des regards, même si t'as pas de parole, t'es pas à l'aise, honnêtement t'es pas à l'aise.
Exact, et pourtant c'est quelque chose que beaucoup de femmes, de filles veulent travailler. Parce que c'est en fait, personne ne sait, j'ai fait mes recherches, mais en fait, le travailler ton fessier, c'est non seulement esthétiquement beau, c'est en fait hyper bien pour vieillir. Quand tu travailles tes fesses, en fait, tu travailles tout ton bas du corps et ton... Ouais, tu me regardes en mode marketing de ouf. Mais en fait, je veux dire ça parce qu'en fait, ça a du sens. C'est pas seulement un truc fun. C'est aussi de se dire, OK, moi, en fait, beaucoup plus de gens font ça pour leur health, donc pour se sentir mieux, etc. Et aussi pour travailler maintenant pour plus tard. C'est ce qu'on...
juste ta phrase.
C'est ce qu'on voit aussi dans les skincare. C'est ce que tu manges maintenant, c'est comment tu vas être plus tard. Et donc, c'est un peu le même avec le sport. En fait, ça, c'est un truc que je tiens trop à dire, c'est que... Quand les gens ils arrivent dans la boîte de nuit, on demande à tout le monde comment ça va. Et les premières fois que j'ai fait ça, et que les filles elles connaissaient pas encore le club ou elles le connaissaient pas encore, et encore maintenant, elles se retournent et elles pensent, mais elles parlent à quelqu'un d'autre. Parce que à Paris, apparemment, il y a personne qui te demande comment ça va.
Ah bon ?
Je sais pas. C'est un truc vraiment, à chaque fois.
Différemment.
Ça va. Non, je dis, hello les filles, comment ça va? Et vraiment, elles se retournent, elles font, tu me parles à moi? Et je suis genre, ouais. Et du coup, j'ai eu plein de conversations avec des clientes qui. Enfin, waouh, t'as tellement en fait un lien personnel maintenant avec les clientes qu'elles reviennent pas seulement parce que le concept leur plaise, elles reviennent en fait parce qu'elles adorent comment elles se sentent chez nous. Et à beaucoup de filles, elles savent pas que moi je suis la fondatrice qui vient de me voir. Enfin, je sais pas qui a créé ce concept, mais depuis que je viens, je me sens trop bien, mais pas seulement physique, mais mental.
Ouais.
Et c'est. Enfin, j'ai des frissons à le dire, mais c'est vraiment the best thing ever. Enfin, tu dis non, mais ce que j'ai une idée que j'ai eue, j'ai fait, j'ai pris tellement de. Enfin, j'ai essayé et ça a marché au point où. Les filles se sentent comment moi je vais me sentir quand je vais en salle de sport, ou au club de sport.
C'était ton idée de base en fait.
Exact. Ouais. Donc non, pour revenir, donc le concept de mon cul, c'est de donner des cours collectifs de 50 minutes qui sont focalisés fessiers. On les donne pour l'instant en ce moment en boîte de nuit.
Ok. Est-ce que du coup tu es entourée de combien de coachs Parce que c'est pas toi qui fais les cours.
Non, exactement. Donc, je suis pas coach sportive, effectivement. en fait, en France, ce qui est hyper bien, c'est qu'il faut un certificat pour devenir coach. T'as vraiment, enfin, c'est une étude, quoi. Et donc, moi, je me suis entourée de coachs certifiés, bien sûr. Et j'en ai pour l'instant, on est trois. Pardon, il y a eu quelqu'un qui est parti parce qu'elle est enceinte.
Oui.
Donc, maintenant, on est trois, effectivement. Et de toute façon, on en cherche tout le temps parce qu'il y a les créneaux qui grandissent. On a commencé avec un créneau en janvier par semaine. Et là, on a 11 créneaux par semaine. Et on est rempli.
Ouais, il n'y a plus de place. On ne peut pas s'inscrire. Je voulais m'inscrire cette semaine et il n'y a plus de place.
Et c'est fou.
C'est trop bien.
C'est fou.
Ça te fait quoi?
Bah, en fait, on a passé nos 6 mois là, ce mois-ci. Ouais. Et on a fait une offre pour nos clientes qui étaient. Pardon, elle n'est plus là. On avait fait une offre de 6 séances à 11 euros par séance.
OK.
Et quand j'ai posté ça et quand j'ai envoyé le mail, il y a mon site qui a explosé. Et c'était mais tellement. Je pense que c'est gratifiant qu'on y en français. Genre, ça m'a fait tellement chaud au cœur que j'étais là sur mon divan et je pleurais. Enfin, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit.
Ouais, non, c'est. En fait, c'est la récompense de tout ça, quoi.
Ouais.
Ouais.
Parce que.
Ça veut vraiment. Enfin, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi.
Ouais.
C'est le feu.
C'est le feu pour l'instant. Non, et je pense que ça, c'est un truc aussi hyper important à savoir en termes d'être entrepreneuse. C'est qu'en fait, mon mois de janvier a été top. Quand j'ai commencé, c'était genre waouh, ça a aussi pris le feu. Mais mon mois de février était catastrophique.
Ok.
En février, les gens. Je ne sais pas pourquoi, ils arrêtent de faire leur sport, ils partent en vacances, je ne sais pas ce qui se passe.
C'est des bonnes résolutions qui s'estompent.
Exact, mais en fait, c'est juste pour dire, à ce moment-là, bien sûr, j'ai eu un moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait?
Ouais.
Mais en fait, il faut continuer et ça va arriver, il faut donner le temps aux choses. Et moi, je suis quelqu'un qui est hyper speed et tout doit arriver maintenant, vite.
T'es impatiente.
Impatiente. Et en fait, non, genre la récompense, ça va venir. Mon objectif, c'était en 6 mois. C'est pas au moins numéro 2. Oui. Donc en fait, il faut se donner le temps. Il faut donner le temps aux gens de commencer à te connaître. Et il faut juste continuer à, jour après jour, mettre exactement ce que tu veux en place. Et de trust in the process, on dit. Et de vraiment dire, OK, bah, j'ai bien réfléchi au truc. Je sais ce que je fais. L'expérience, elle est bien. Les gens, ils vont aimer. Les gens, ils reviennent. Et en fait, c'est grâce à mes clientes que ça grandit. C'est en fait, il y a une personne qui vient. La semaine d'après, elle vient avec sa copine. En fait, c'est ça qui nous a aidés. Et c'est du bouche à oreille qui a fait que le truc explose.
Beaucoup, ouais.
Voilà. Ouais. Donc, je tiens à vous dire, tenez. Si ça prend pas encore, ça va arriver. Je suis sûre.
Une séance, ça coûte combien?
Ouais, donc en fait, c'est la séance, c'est ça, à 14 euros.
Ok.
C'est plus facile à dire.
Oui, c'est vrai. Bah, après, c'est vrai que... Et il y a un abonnement, on peut s'abonner après?
Ouais, donc exactement. On ne fonctionne pas avec des abonnements mensuels, comme d'autres
salles de gym.
En fait, on fonctionne avec des packs de séances. Donc, tu as des packs de 5, des packs de 10, des packs de 20. Et pourquoi on fait ça? C'est parce qu'en fait, tu achètes vraiment ta séance et tu as plusieurs mois pour les utiliser. Et du coup, on est presque sûr que tu vas venir, tu vois. C'est un abonnement, en fait, c'est un peu à se dire... on sait à peu près que tu vas peut-être venir 2 fois et du coup, en fait, nous, on a une séance gratuite, enfin, que tu viens pas, tu payes pas. Donc, nous, on n'aime pas trop ce système. Nous, on se dit, en fait, on le fait pour nous, on le fait pour vous, de se dire, bah, t'as un pack de 10 et tu peux les mettre où tu veux. T'as même, je pense, le pack de 10, c'est 6, non, t'as ouais, presque 1 an pour les utiliser. Donc, voilà, c'est à toi de les utiliser. On se dit qu'en 1 an, quand même, t'as laissé assez de temps pour les mettre dans ton agenda. Mais voilà, non, et en fait, ça, c'est une de nos valeurs. On a 3, c'est vraiment d'être humain, honnête et fun. Et dans la partie honnête, je pense que c'est ce qui relie le plus à notre manière de travailler aussi nos prix.
Mmh, bah, franchement, il y a des salles, tu vois le prix. Alors après, oui, ouais. Les aménagements sont ouf,
exact.
Machin, blablabla. Bla, bla, mais alors, pour avoir essayé... des concepts et tout à Paris, franchement, ta place, c'est 29 balles. Enfin, moi, je gagne un peu plus que le SMIC, mais genre vraiment un tout petit peu plus. Mm. 29 balles pour aller faire du sport. Alors oui, les cours sont de qualité et tout. Bah ouais, mais 29 euros, en fait, je peux pas. Et maintenant, les abonnements avec... après Covid, bah forcément, il a fallu... Enfin, on sait que forcément, on doit... Comment on dit ce mot, tu sais, on doit rééquilibrer, forcément, il y a eu une perte, donc forcément, il y a une inflation partout, tu vois, il y a une inflation partout, mais Non, oui, enfin, 29 ouais. euros, moi, je trouve que c'est hors de prix. Alors oui, il y a des séances découvertes et tout. Mmh. Donc, ça,
et okay. Après, t'aimes bien, t'as accroché, tu veux plus revenir.
Bah, c'est ça. Bah, du coup, ça fait un peu mal. Voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué, et je peux comprendre. Et c'est surtout des salles où, enfin, honnêtement... tu retrouves, je veux pas catégoriser les Parisiens, mais t'as une grosse partie, c'est des bobos Parisiens, ouais. Tu te sens pas bien parce que...
Voilà, c'est exactement pourquoi on a créé le concept du club de sport mon cul.
Ouais, c'est vrai que quand on voit sur les réseaux les stories, franchement, je me suis dit, wow, ça a l'air d'être le feu, clairement. Ouais. Je voudrais revenir sur... Parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de monde, c'est comment est-ce que tu diriges ton entreprise ? Est-ce que tu es avec des... Est-ce que c'est toi qui t'occupes de la compta ? Toutes ces questions-là, tu t'entoures de qui, en fait ?
Ouais, donc pour revenir à que j'ai pas beaucoup d'aide parce que je le demande pas.
En fait,
c'est horrible. Non, en fait, de un, j'ai pas beaucoup d'argent, donc je peux pas prendre des personnes en termes d'investissement. Donc oui, pour l'instant, je fais tout toute seule. Maintenant, je suis à ce niveau où je vais devoir avoir de l'aide. Donc, c'est trop bien. Et en même temps, c'est aussi un peu de stress. Tu te dis, oh my god. Non, donc, ouais, j'ai fait la compta pour l'instant toute seule. Donc, tu m'as demandé, numéro un, c'était comment créer l'entreprise, ça ?
Ouais, voilà. Tu es dirigeante de ton entreprise. Mais ton entreprise, c'est quoi, en fait ?
Ça, c'est hyper intéressant. Donc, en France, et ça ne marche pas comme ça dans tous les pays, bien sûr, ils ont tous leur propre structure. Il y a plusieurs entreprises que tu peux monter différentes et ça va un peu dépendre de plusieurs choses. Une, est-ce que tu es toute seule ou pas ? Moi, la réponse était oui.
Je suis là.
Oui. Le deuxième, c'est en fait ton chiffre d'affaires que tu penses faire à la fin de l'année. Mmh. Et en fait, mon chiffre d'affaires est hyper haut parce que il y a beaucoup de places, les gens ils achètent, etc. Mais en fait, mon profit à la fin est beaucoup plus bas. Donc ça, c'est un truc qu'il faut aussi réaliser. C'est pas ton chiffre d'affaires, c'est pas ce que tu gardes à la fin de l'année. C'est vraiment le coût total, tout ce que tu as reçu des clientes.
Okay.
Mon chiffre d'affaires, du coup, il était haut. Il était super haut. Donc, je ne pouvais pas être auto-entrepreneuse. Donc, généralement, ce que tu fais, c'est que tu prends, quand t'es toute seule, un statut auto-entrepreneur parce qu'il y a plein de bénéfices qui viennent avec. Moi, je ne pouvais pas faire ça parce que dans mon business plan donc, que j'avais créé, il était trop haut le chiffre d'affaires à la fin.
D'accord.
Ce qui a fait que j'ai pensé faire bien, je ne sais toujours pas si c'est bien, mais je suis en fait en EURL, donc c'est le statut entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée.
Voilà, exact. mais vous inquiétez pas, en fait, il y a plein d'outils online pour vous aider à comprendre et à choisir votre statut. Et moi, j'ai utilisé, je vais le dire parce qu'ils m'ont vraiment bien aidé, ça s'appelle Captain Contrat. Et sur leur site, en fait, il y a un tableau et tout pour dire, OK, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu check le box ou pas ? Hop, hop, hop. Et en fait, tu réponds à plusieurs questions et ça t'aide. Ça te dit, toi, probablement que ce statut-là t'ira mieux pour ton entreprise. Et ce qui est aussi super cool de Captain Contrat, c'est qu'ils te mettent une personne pour tout ce qui est création d'entreprise que tu peux appeler à tout temps. Donc, toutes les questions que tu as, et vraiment, je connaissais rien. Tout ce que je fais, c'est vraiment en faisant, en apprenant. Donc, tu les appelles, ils t'aident. Tu choisis quelque chose. Moi, je devais aller hyper vite parce que j'avais un mois pour tout régler. Donc, en fait, il faut un peu réfléchir à ça aussi. C'est comment est-ce que tu veux que ton entreprise, elle va être dans 5 ans. Moi, si j'aurais fait ça en avance, j'aurais pas été pour une EURL. J'aurais opté pour, en fait, même mettre ma maman sur dans mon entreprise pour être à deux et pour du coup avoir une entreprise du coup pas EURL.
Ok.
Parce que maintenant, c'est que quand je grandis et que je vais avoir des personnes qui viennent dans mon team, ça va être un peu plus compliqué. Donc, il faut en fait réfléchir à ça aussi. Mais toutes ces questions-là, si vous avez plus de temps que moi en un mois, vraiment, notez-les, posez-les. Et en fait, ils vont vous aider vraiment à choisir le statut.
D'accord.
Et je ne vais pas mentir, c'est compliqué de faire une entreprise à Paris. En fait, tu as plein de papiers. Tu as plusieurs procès que tu vas faire en même temps. Tu as la banque, tu as la compta, tu as le greffe, tu as l'URSSAF. Enfin, tu as toutes ces structures. Ouais. T'as toutes ces structures qui, en fait, ne marchent pas vraiment l'une avec l'autre.
Enfin... Ah non, mais ici, sinon, ça serait très simple.
Mais moi, je viens des Pays-Bas où il y a tout qui est super simple. Mais c'est pas grave.
Mais dans le Nord, c'est beaucoup plus simple.
Mais donc, ça, c'est aussi quelque chose, prenez votre temps. Et il faut juste le faire et ça va vous prendre longtemps et tu vas devoir attendre 2 semaines pour un courrier qui va venir en physique à ton entreprise, okay. Domiciliation. Il y a aussi la domiciliation d'entreprise, par exemple. Donc moi, je n'ai pas de domicilié où j'habite parce que je loue mon appartement. Et j'ai pas envie que les gens ils sachent que moi j'habite ici.
Ah ouais, enfin, surtout, tous.
Enfin, surtout qu'un nom comme mon cul, enfin, les gens, je sais pas, ils peuvent se dire des choses. Donc j'avais pas trop envie d'avoir des stalkers qui viennent. Donc j'ai, voilà, domiciliation, est-ce que tu veux faire ça chez toi? Est-ce que tu veux payer pour ça?
C'est vrai que j'avais pas pensé à
ouais,
ça.
Il y a plein de choses à.
C'est ici, mon cul.
Donc voilà, donc il y a tous ces trucs. Mais bon, tu peux pas faire. En fait, tu peux pas avancer dans le process sans avoir fait. L'autre chose, donc moi qui ne savais rien, c'était « Ah, ok, j'ai un papier, oh, shit, bon, hop, je cherche, je fais. » Et en fait, ça vient assez l'un après l'autre. Moi, c'était mes papiers, ils ont été perdus, ils ont été envoyés à la mauvaise adresse, c'était la cata en un mois, mais j'ai pu le faire, j'ai dû au final attendre 3 mois pour okay. être vraiment dans tous les systèmes, mais tu peux déjà commencer ton activité. Il faut juste que tu aies vraiment déjà enregistré ton nom, par exemple.
Ton nom de domaine, ouais, j'imagine. Ouais, c'est
nom de domaine, ouais. Mais ça, c'est un truc tout à fait autre, en fait. Tu as donc la création d'entreprise, effectivement. Et le nom de domaine, ça vient aussi avec. Mais en fait, tu dois aussi après... comment tu appelles ça? Le patenté? Patent, genre quand tu déposes ta marque, le dépôt de marque.
Voilà. Ok, ouais, je sais pas, me dis pas ça à moi.
Pardon, il y a des mots en anglais. En fait, tu vas déposer ta marque pour être sûr que pas d'autres prennent ton logo.
Ouais, c'est ça.
Et tu dois aussi regarder, ok, donc dans quelle activité est-ce que je me situe. Donc moi, je suis dans le sport et loisirs. Enfin, il y a vraiment des choses qu'il faut bien regarder. Mais tout ça, vraiment, le procès, il est pas hyper facile, mais... Si, de toute façon, tu dois suivre une étape et tu dois faire l'un et puis l'autre et puis revenir sur l'un. Donc, tout ça, au fur et à mesure, tu dois ticker les boxes. Donc, je vais dire, ouais. Tu vas devoir le faire. Donc, ils vont t'aider avec ça aussi.
Ok, ça marche. Ouais, donc, j'imagine, ouais, c'est ça, long process. Ouais. Bon, après, tu étais toute seule et donc, du coup, tu l'es toujours. Et c'est vrai que c'est plus... ok, d'accord. Donc là, aujourd'hui, tu as 11 créneaux.
Ouais.
Ton entreprise, elle a 11 créneaux. Mm. T'as 3 coachs ouais. avec toi.
Ouais.
T'es toute seule à diriger ton entreprise.
Ouais.
C'est toi qui gères l'Instagram, le site.
Oui. Pour l'instant, c'est moi qui gère l'Instagram. Je le gère pas très bien.
Tu dors beaucoup le soir ou...
Si, en plus, ça va.
Ça va.
Dans les 8-9 heures.
Ah, ça va déjà.
Ouais. Allez, on se met tous au sport. non, donc.
T'as des jours off.
Au début, non. J'essaye de les prendre. Quand on n'a pas cours les jeudis, donc généralement c'est le jeudi que je prends un peu off, bien okay. sûr, en fait, bon, comme je suis toute seule, toutes les réservations qui viennent, je dois les traiter, parce qu'elles viennent de plusieurs sources différentes, ça prend énormément de temps, j'ai tout le truc réponse client sur Instagram.
Tu fais le SAV, évidemment.
Donc, oh. Ouais.
Ça j'aime bien moi le SAV, j'ai travaillé 2 ans dans une boîte à faire la relation... SAV, c'était pas du tout le même domaine.
T'as dit ce que ça veut dire SAV.
SAV, service après-vente. Oui, bah, c'est bien, tu fais mon taf. Ouais. Et du coup, j'aimais vraiment la relation client. Alors évidemment, quand les clients ouais. ont des interrogations, parce que quand ils sont pas contents, mais d'un côté, ça apprend beaucoup à dénouer des choses. Mm. Et putain, tu fais ça. C'est, tu ouais. fais tout. Non, mais vraiment, tu fais tout, quoi.
Ouais.
Et t'arrives à... Alors, du coup, je saute du coq à l'âne, mais t'arrives à te payer aujourd'hui?
Donc, je pourrais commencer à me payer, oui. Donc, vraiment, les 6 mois, je les ai eus et bam, là, je peux commencer à me payer.
Ok.
Maintenant, en fait, c'est toujours comme ça en entrepreneuriat. Est-ce que tu réinvestis ou est-ce que tu commences à te payer? Et pour l'instant, on est en train de grandir énormément que j'ai besoin de cet investissement pour vraiment avoir quelqu'un qui mette sur Instagram, par exemple.
Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai compris. En fait, là, tu fais le choix de ne pas te payer.
Voilà.
Mais pour comment l'instant, tu vis ?
Pour l'instant, j'ai de l'aide de mes parents.
D'accord, ok. Non, d'accord, ouais. Bon, ça, t'inquiète pas. Ok.
Non, enfin, c'est très bien. Il faut s'entourer de personnes qui peuvent t'aider. Je pense oui. que ça aussi, c'est la chance dont je parle au début, c'est que je pense pas que tout le monde puisse être aussi libre que ce que moi, je ouais. suis. Moi, j'ai vraiment mes parents qui, si je suis dans la merde, qui peuvent m'aider.
Ouais.
Et c'est vrai que tout le monde a ça.
Ouais, l'argent, ça peut bloquer beaucoup. Enfin, comme tu dis, il y a des obstacles
ouais.
et ça peut bloquer.
Ouais.
Bah, surtout quand t'es solo, quoi. C'est
ouais.
ok. Oui, mais du coup, t'as fait le choix. Enfin, tu pourrais te payer, ouais. mais tu as fait ce choix d'investir dans ton entreprise.
Exact.
C'est ouf.
Ouais. Donc, par exemple, l'Instagram, pour l'instant, il est vraiment pas à hauteur de notre expérience cliente. On a beaucoup de gens qui font.
C'est... Ouais.
qui font il est pas mal, hein, ouais, mais cool. En fait il y a des gens qui nous disent bah attends, mais c'est tellement beaucoup plus ouf quand tu viens à la salle, enfin dans ton club de sport, et ça se revoit pas.
Ouais, mais ça c'est pas ton souci, c'est le souci de l'algorithme aussi. Instagram, c'est là en fait Instagram préfère te montrer des influenceuses qui font du placement de produits que des comptes qui sont vraiment qui sont importants, qui sont intéressants et tout. Oui, je peux comprendre aussi, c'est un peu pareil pour nous le podcast, on a beaucoup d'écoutes, mais sur Insta, il ne va pas y avoir le reflet de toutes les écoutes qu'on a, tu vois.
Ouais.
Donc, c'est...
Bah, c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est un peu le choix que moi je suis en train de faire, c'est comme je suis toute seule sur le projet, où est-ce que je me focalise. Et pour l'instant, notre expérience client hors ligne, ou via le DM d'Instagram, donc les messages privés, etc., c'est beaucoup plus important d'être hyper réactif pour l'instant, que de faire en sorte que l'Instagram est hyper quali. Maintenant dit, on grandit tellement vite que ça va devenir hyper important que l'Instagram soit hyper quali. Donc, dans le plan maintenant, donc j'avais un business plan, mais ici, il y a le plan stratégique. Et le plan stratégique, maintenant, il faut vraiment le développer pour que, en fait, je puisse supporter la croissance de l'entreprise.
C'est clair.
Donc voilà, l'Instagram, ça va faire un gros enjeu. Après, ceci dit, oui, l'algorithme d'Instagram est compliqué.
Oui, compliqué.
Et comme toi, en fait, mes clientes, il y en a beaucoup qui ne nous suivent pas sur Instagram.
Bien
parce
sûr.
Qu'elles nous connaissent, en fait.
Ok, il y a des gens qui n'ont pas Instagram aussi, il faut le dire.
Et oui. Et on voit aussi qu'en fait, l'interaction, le engagement rate, vous allez entendre beaucoup ce mot-là quand vous cherchez pendant l'entrepreneuriat, engagement rate, il est hyper bas sur Instagram. Donc, tu peux poster un truc et tu vas avoir 40 likes, mais ça ne veut rien dire. Et quand t'as 40 likes, Instagram ne va pas le mettre en avant. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose de différent qui se passe avec souvent les brands, c'est que on va devoir en fait se mettre beaucoup plus sur TikTok parce que là l'engagement rate est beaucoup plus haut. Mais comment est-ce que tu vends un cours de sport sur TikTok, enfin sans trop donner du truc, enfin c'est hyper compliqué, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, et moi j'adore et tout ce qui est concept, mais ça j'ai pas encore craqué, et c'est là en fait où je dois investir un peu plus de temps et de sous, c'est trouver quelqu'un qui comprend, parce que le temps que moi je mets dedans, en fait je suis trop tard, donc ça me coûte moins cher on va dire si j'ai quelqu'un qui peut le faire plus rapidement que moi.
Bien sûr, une mission, vois ce que tu veux dire.
Ouais.
Ok, donc je là, pense... tu vas investir. Là, tu investis beaucoup plus dans ton entreprise.
Ouais.
Ok. J'imagine que là, ça va forcément s'accroître. Hein. De toute façon, ça a l'air d'être, ça a l'air d'aller dans ce sens-là. Mm-hmm. Est-ce que est-ce que vous allez ouvrir plus de... tu vas ouvrir plus de créneaux? Ça doit fuser forcément.
En fait, j'ai tellement d'idées. Et donc, pour l'instant, on est en boîte de nuit.
Ok.
Au début, c'était un peu donc, la question, est-ce que tu continues là-dessus? Est-ce que c'est ça vraiment qui fait que les gens reviennent? Donc, est-ce que je dois ouvrir plus de boîtes de nuit? Donc, demander à plus de boîtes de nuit de donner les cours là-bas. Ou est-ce qu'en fait, j'ai mon propre club de sport? Et ça devient le main pillar, donc vraiment notre... moi, j'appelle ça un flagship, mais c'est pas ça du tout. Mais moi, j'appelle ça mon flagship club, et que j'ai des clubs sur le côté. Donc, c'est un peu, c'est de nouveau une stratégie différente. Mais l'expérience que je veux donner, en fait, c'est pas uniquement la boîte de nuit qui donne l'expérience. Maintenant, on a vu que la boîte de nuit, c'est drôle. Les gens, ils viennent pour ça au début quand ils ne connaissent pas. Ils font « Oh my God, trop drôle, on va tester en boîte de nuit ». Mais c'est pas pour ça que les gens reviennent. Donc en fait, et c'est pour ça que quand je décris le concept, ça a un peu changé aussi, c'est important d'être flexible, c'est qu'au début, notre unique selling point, notre point unique de vente, c'était de se dire, on est en boîte de nuit, on est le premier club de sport à faire ça, sur Paris. Mais de se dire en fait, non, le concept, c'est de donner un emplacement, un environnement aux femmes pour qu'elles puissent bosser leurs fesses en sécurité, en bienveillance, sur le beat de la musique, qu'elles ressortent de là.
Ils s'entraînent pour 14 juillet là, putain.
On a choisi le bon jour, genre canicule numéro 2 et bam. Mais donc c'est de se dire, ok, donc non, mon rêve c'est d'ouvrir un club de sport, mais que je vais vraiment, l'expérience va être type boîte de nuit, ça va vraiment être un truc, mais ouf, j'ai trop hâte de le faire. Mais pour ça, du coup, il me faut de l'investissement. Donc ça, c'est un plan numéro 2. Ça, je pense, c'est tout un autre épisode qui serait hyper intéressant. C'est les gens qui ont fait des levées de fonds, qui ont fait des pitches d'investissement.
Oh putain, ça, j'adore. Comment faire ça ? Il faut que tu ailles dans l'émission Ah, c'est l'émission, il y avait Shark Tank. Nous, en France, c'est... Ouais. Oh, mais j'en ai parlé dans un épisode. En fait, ce sont des
Business Angels.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et, ils sont là, ils sont alignés. Ouais. Il y en a quatre.
Ouais.
Et du coup, tu parles de ton projet, mais ouais. C'est même pas forcément un projet puisque c'est des fois c'est déjà en place sur. Mm. Et là, tu te dis et donc ils investissent.
Ouais.
Et qui veut être mon investi? Non, qui veut être Ah, je sais plus. Je vais chercher là, pendant qu'on parle.
Mais, ouais.
Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc ouais. Là, c'est vraiment quand vraiment tu fais une levée de fonds. Mm. Là, tu peux ouvrir. Ça serait le next step.
Ouais.
Putain, ça serait ouf.
Ouais, c'est...
Qui veut être mon associé, voilà, pardon.
Qui, oui, c'est ça, voilà. C'est ça. Mais, donc non, mais après, bon, il y a plein d'autres manières de trouver des levées de fonds. Il y a des levées de fonds privées, des levées okay. de fonds... Enfin, tu peux faire avec les banques, par exemple, un emprunt. Donc, ça,
on va le faire le prochain épisode.
C'est ce que, voilà, exact.
Tu ouvriras ton club.
J'aimerais ça.
Comment j'ouvre mon club?
Ouais.
Enfin, mon espace, pardon.
Ouais. Mais donc ça vraiment, je pense que ce serait un big step pour nous et ce serait un step où qui supportera, enfin qui aidera le genre la croissance
okay.
de mon petit projet qui a commencé avec un
rêve et
qui devient grand.
Ton projet de
ouais.
Ton projet trop cool.
Merci.
On va finir. J'ai une question là qui me vient comme ça. Est-ce que dans tout ce que tu fais t'arrives à te sentir légitime en fait, parce que j'ai l'impression, enfin, bah là, tout ce qui se passe dans ta vie, tu pourrais avoir le syndrome de l'imposteur en mode putain, non, en fait, je mérite pas du tout ce qui se passe, enfin, c'est humain, hein, mais comment t'arrives à te placer là-dedans?
Ouais, j'adore parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question,
ouais.
Justement, quand ils savent que, enfin, quand ils apprennent que je suis la fondatrice, en mode non, vraiment, enfin, comment tu fais? Et j'ai jamais vraiment senti ce syndrome d'imposteur et je pense que c'est parce que j'ai des rêves qui sont trop gros. Mes rêves, c'est ça qui me drive, en fait. Et depuis que je suis petite, j'en ai plein. Et je me dis, genre, quand je mets sur un truc, j'y vais tout à... enfin, 100%. Par contre, oui, je peux le ressentir dans des situations, bah, on en a parlé un peu au début, où tu te sens pas légitime, parce que dans un monde qui est assez genre strong dans tout ce qui est homme et dans tout ce qui est que tu dois avoir, de l'expérience, tu dois connaître tout ce que tu es en train de faire. Enfin, moi, j'apprends quand... along the way, donc dans le process j'apprends et en fait par exemple quand tu parles à des gens qui sont plus vieux et hommes, souvent ils te regardent souvent ils te regardent en mode bah t'es pas légitime et c'est là que je le sens, mais sinon dans ce que je fais genre jour à jour je me sens légitime parce que en fait j'adore ce que je fais, ça me donne hyper plein de motivation et c'est la première fois que je me sens justement libre en fait. Et ce syndrome d'imposteur, je pense je peux comprendre qu'on l'ait, mais en fait, il n'y a personne. Il y a seulement toi qui te stand your own way. Il y a seulement toi qui te fais tes barrières. Et une fois que tu te dis, bah, en fait, il faut le prendre en mode, je vais essayer. C'est même pas un syndrome d'imposteur, c'est vraiment, je vais essayer. Et si j'arrive pas, bah, j'arrive pas. C'est pas grave.
Mm.
Et une fois qu'en fait, tu switches ça comme ça, tu te dis, bah, en fait, je suis pas un imposteur parce que je suis comme les autres, j'essaie de faire. Et ce que j'ai remarqué quand j'ai travaillé pour des corporates, c'est que t'as des gens... des hommes beaucoup plus vieux qui savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et quand j'avais 23 ans, et j'étais en mode, non mais c'est n'importe quoi. Et moi, j'avais pitché au CEO des projets où il était là en mode, wow, ok. Et en fait, c'est de se dire, c'est peu importe ton âge, peu importe qui t'es, peu importe ton background, si t'adores ce que tu fais, t'es motivé et bah, t'es bonne là-dedans, le syndrome d'imposteur, je trouve qu'il va partir, tu vois, il faut juste go for it.
Mm.
Tu vas faire des erreurs, j'en ai fait plein des erreurs. Mais c'est dans les erreurs que tu apprends et que tu deviens encore plus forte la prochaine fois.
Ouais.
Donc, j'arrive pas trop à y parler parce que moi, je ne le ressens pas
ouais.
fort. Mais en fait, c'est juste, moi, je pense à un mindset, il faut vraiment le changer en mode, de toute façon, il y a tellement de gens qui font n'importe quoi de leur vie, qu'ils essayent. Pourquoi est-ce que toi, tu peux pas essayer? Genre,
ouais.
Juste go.
Mais c'est pas trop dans notre culture, c'est pour ça que je te posais la question.
Ouais.
Quand j'entends des podcasts,
ouais.
Même quand je... Je parle dans Denis Bourbon souvent parce que le mec, c'est celui qui a fait, tu sais, la marque Feed, les protéines
ouais.
bars, là. En gros, lui, il vient... alors oui, c'est peut-être du storytelling pour certaines personnes, mais j'en ai rien à foutre. Et en fait, en gros... Non, mais en fait, ici, si tu veux, on est dans une culture où on valorise beaucoup les écoles de commerce,
ouais.
on valorise beaucoup les beaux diplômes, les gens qui ont... bah, déjà beaucoup de sous et tout. Et ouais. En fait, les gens qui font à la méritocratie... Enfin, ouais, ouais. En fait, la méritocratie n'existe pas trop en France. Mm. Les gens qui galèrent et qui arrivent, tu vois, started from the bottom, tu sais, ouais. Genre qui, bam, bam, moi aussi, je vais faire des anglicismes. Et...
J'adore.
Non, mais vraiment qui partent... Moi, par exemple, tu vois, je pars de pas grand-chose. Mm. Et bon, bah, après, moi, je suis prof. Mais bon, bref, c'est pas... En fait, quand tu... Pareil, le podcast, tu vois, mm-hmm. tu commences par des petits bouts. Mm-hmm. Et moi, j'admire, en fait, tout, tu vois, de savoir que tu arrives à créer de A à Z ton entreprise, pour mm-hmm. moi, c'est un truc de ouf. Et OK, tu as économisé pour que tu puisses pendant 6 mois, mm-hmm. Voilà, bah, te loger, mm-hmm. voilà. Maintenant, tes parents t'aident, mais parce que mm-hmm. toi, tu as envie d'investir ton salaire que mm-hmm. tu pourrais te verser dans ton entreprise, bah, c'est louable, en fait. Pour moi, la méritocratie, il y a plusieurs, tu sais, il faut cocher certaines choses, mais en France, c'est pas en mode, ah, tu veux faire ton business, bah, go, tu vois, vas-y, moi, j'y crois, c'est vachement stylé. Non, ça, c'est plutôt ricain, c'est plutôt anglophone. Mm. Tu vois, en France, c'est en mode, ah bon, t'es sérieuse, tu vois, c'est vraiment, si tu pouvais te la fermer, ça serait encore mieux. Ouais. Ça dépend des gens. Parce que notre génération, elle est un peu plus en mode, ouais, vas-y, éclate-toi, fais ce que tu veux. Mais en haut, ils sont là en mode, non, en fait, pas du tout, quoi.
Ouais, je peux tout à fait comprendre, et j'étais en situation où quand je disais bah du coup à mon boss que j'arrêtais pour commencer mon cul, genre il était en mode mais t'es crazy en fait.
Et
mais non, parce que et je pense que c'est dur, et peu importe, c'est pas que l'âge en fait. Oui, je suis jeune et tu peux avoir la même chose à l'âge de 45 ans. Je sais que ma maman par exemple, elle arrive pas en fait à se lancer parce qu'elle a aussi peur, elle dit toujours mais j'ai pas un assez bon niveau ou j'ai pas assez travaillé là-dedans.
C'est les croyances, ouais. Mmh.
Ouais, et en fait, c'est pour se dire que de A à Z, en fait, le joke, c'est que je sais pas ce que je fais. Genre, je le fais, j'apprends, ça marche pas, tu rechanges. En fait, c'est la flexibilité de ne pas avoir cette expérience. T'imagines, t'aurais toute l'expérience de ta vie, tu commences et ça échoue, tu dis « Oh my God, tu te le prends hyper personnel. » Mais là... Tu te lances dans un truc... En fait, non, ce que je voulais dire, c'est... Et ça, j'adore. Il n'y a que toi qui vas croire en toi, au final. Tes parents, ils peuvent croire en toi, mais ça veut en fait rien. Enfin, ça veut rien dire, parce que c'est tes parents. C'est comme ça que tu le prends, généralement. Ton copain, il va croire en toi, mais c'est ton copain. Donc, en fait, ouais. Le nombre de fois que j'ai entendu quelqu'un qui me dise « Oh, ok, tu vas vraiment faire ça, t'es crazy. » Tout le monde va penser que c'est crazy. Un, parce que, bah, eux, ils vont pas le faire. Deux, bah, ils comprennent pas ton envie et ta passion. Donc... Vraiment, si toi, tu crois en toi, les choses que tu peux faire, elles sont infinies.
Sarah, tu rencontres une personne qui veut se lancer. Tu lui donnes quoi comme conseil?
Ok, donc mon conseil, ce serait de « don't overthink it » en anglais. Donc, ne réfléchis pas trop. Il faut juste commencer. Et les choses vont se dérouler. Parce que honnêtement, tu vas jamais tout savoir. Mm. Tu vas jamais pouvoir tout savoir. Et tu vas apprendre à fur et à mesure. Donc voilà, juste se lancer, vraiment. Ouais. C'est le seul truc que tu peux faire.
Petit bout par petit bout, clairement. Ouais. Ça peut être une mini-action, en plus. Hein. Vraiment, je pense au podcast, la mini-action, c'était tu vois, de trouver peut-être un nom, de regarder des plateformes, juste de se renseigner, quoi. Ouais. OK. Et où est-ce qu'on peut retrouver mon cul sur les réseaux?
Ouais, donc on a Instagram, qui est mon cul club. Et okay. Le Q, en fait, ça s'écrit pas C-U-L, on n'a pas été jusqu'au bout, c'est juste la lettre Q.
Ok.
Et on a aussi un site internet, là où, du coup, vous pouvez booker vos séances, et c'est www.monqclub.com. Voilà.
Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, Sarah.
Ben, un grand merci à toi de m'avoir.
C'est trop cool. Vous pouvez surtout réagir à cet épisode, vous savez, sur Instagram, en MP. On reçoit beaucoup d'audios, donc c'est trop cool. Des audios, des mails. Partagez cet épisode parce que, pareil, en fait, le podcast, il marche bah, grâce au bouche à oreille, en fait. Et en fait, toutes les écoutes ne sont pas forcément... comment dire, bah vous les voyez pas, mais il y a énormément d'écoutes et c'est vrai que bah, c'est grâce à vous et c'est grâce aux bouches à oreille en fait, clairement. Donc merci beaucoup et n'hésitez pas à noter le podcast sur Apple Podcast et sur Spotify avec des petites étoiles. Ouais, salut Sarah.
Ciao.
Salut tout le monde.